RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Martin Guez. L'opération israélienne en Iran pourrait durer.
Elle prendra le temps qu'il faut, dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les pilotes de l'armée de l'État hébreu sont toujours en action. Des bombardements qui ont touché des cibles nucléaires et militaires. Le chef de l'état-major ainsi que le numéro 1 des gardiens de la révolution ont été tués. Et aussi des scientifiques sur le site de Natanz, des civils de la capitale Téhéran ont aussi été touchés. Vous entendrez le témoignage d'une habitante de la capitale. Une explosion a retenti juste à côté de chez elle. Nous serons aussi en direct de Jérusalem. Alors que la riposte iranienne a débuté, Israël dit avoir intercepté de nombreux drones envoyés depuis l'Iran. Donald Trump garde la main sur la garde nationale en Californie, alors qu'un grand défilé militaire est prévu demain à Washington à l'occasion des 250 ans de l'armée américaine. Ce sera l'objet de notre dossier de la rédaction avec Marine de la Moissonnière. Et puis enfin, nous serons à Pékin en fin de journal, la Chine qui lève ses taxes sur les produits de la quasi-totalité du continent africain.
L'opération israélienne en Iran n'est donc pas terminée.
Les pilotes de l'État hébreu sont encore en train d'attaquer, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Une opération qui durera autant de jours que nécessaire, a annoncé Benjamin Netanyahou, qui a parlé d'une opération pour la survie de son pays. La télévision iranienne fait état d'une cinquantaine de blessés après des frappes dans le nord-ouest de l'Iran, dans le centre, sur le site nucléaire de Natanz, où se situe une usine d'enrichissement d'uranium. 6 experts nucléaires ont été tués. Aucune augmentation des niveaux de radiation n'était observée, fait savoir l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des frappes israéliennes également sur Téhéran. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a été tué, ainsi que le numéro 1 de l'état-major, Mohammad Bagheri. Des cibles nucléaires, des cibles militaires et des cibles civiles également. Les bombardements ont fait au moins 5 morts et 20 blessés dans la capitale. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette habitante de Téhéran qui a tenu à rester anonyme. Sa voix a été modifiée, une explosion a retenti juste à côté de chez elle.
C'était dans la nuit, lorsque je me suis réveillée en sursaut, en entendant plusieurs détonations. J'ai senti l'immeuble trembler. Et puis, le quartier a plongé dans le noir. Et du coup, on se demandait ce qui se passait. On n'avait plus d'électricité pendant une quarantaine de minutes. J'ai toujours le souffle coupé. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe. On savait pas quoi faire. On n'est pas expérimenté. On n'est pas assez rodé pour savoir comment affronter la guerre. Moi, j'ai pas connu la guerre, mais je suis née en pleine guerre, Iran-Irak, et j'aime pas finir dans la guerre. Je suis furieuse, tellement furieuse contre les autorités du pays qui ont cherché, qui ont poussé le pays vers la guerre en cherchant leurs folles aventures dans la région, qui n'ont rien donné, vraiment, qui n'ont rien apporté pour le pays. Au contraire, ils nous ont plongé dans l'incertitude. Et je ne sais pas désormais ce que ça va changer dans ma vie à partir d'aujourd'hui.
Témoignage recueilli par Muriel Paradon.
Et l'Iran a riposté.
Pour Téhéran, ces bombardements israéliens justifient l'existence de son programme nucléaire. Le monde comprend mieux notre insistance, a dit le gouvernement iranien. L'Iran qui a riposté, l'armée israélienne dit tenter d'intercepter une centaine de drones lancés. Les forces armées iraniennes disent qu'elles n'auront pas de limite dans leur réponse à Israël. On retrouve à Jérusalem notre correspondant Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Nous refusons d'être victimes d'une Shoah nucléaire, a lui déclaré Benjamin Netanyahou pour justifier l'attaque israélienne. Israël qui se prépare maintenant à la riposte iranienne.
Oui, en fait, cette riposte iranienne est déjà en cours selon l'armée israélienne. L'Iran a lancé une centaine de drones et également des missiles de croisière, indique-t-on, en direction d'Israël. Certains d'entre eux ont été aperçus dans le ciel irakien. Le trajet dure environ 4 heures et ils devraient donc arriver en Israël dans l'heure qui vient. L'armée de l'air israélienne tente à ce stade de les détruire en dehors de l'espace aérien national. C'est une véritable guerre qui a éclaté la nuit dernière, une guerre qu'Israël entend mener seul, sans les États-Unis, et cela contre l'avis d'un grand nombre d'experts militaires israéliens qui se sont exprimés ces derniers jours. Le premier ministre israélien depuis le PC souterrain de l'état-major à Tel Aviv s'est déclaré satisfait. La frappe d'ouverture a été très réussie, a déclaré Benjamin Netanyahou, qui a souligné que l'offensive israélienne se déroulerait aussi longtemps qu'il le faudrait. 3 objectifs ont été définis, le programme nucléaire iranien, la destruction des missiles balistiques, l'Iran en posséderait plusieurs milliers, et également le réseau d'alliés mis en place par l'Iran dans toute cette région.
Et Michel, comment réagit la population en Israël ?
Eh bien, les Israéliens ont été réveillés à 3 heures du matin par une alerte préventive leur demandant de rester à proximité d'espaces sécurisés. Il a été clairement indiqué que le séjour dans les abris serait probablement plus long que lors des précédentes crises. L'état d'urgence a été décrété dans tout le pays pas de rassemblement, les écoles sont fermées, les lieux de travail non prioritaires également. L'espace aérien israélien est lui aussi fermé, le tout jusqu'à nouvel ordre. Et en ce moment, les supermarchés sont pris d'assaut. Les Israéliens font des provisions pour les prochains jours, pour passer notamment un Shabbat qui ne sera pas comme les autres.
Merci beaucoup, Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI. Le président américain Donald Trump a lui affirmé sur Fox News avoir été prévenu à l'avance de ces frappes israéliennes. Ajoutant que l'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire, Donald Trump qui a annoncé qu'il réunirait son Conseil de sécurité nationale aujourd'hui. Les États-Unis qui veulent par ailleurs maintenir le nouveau round de négociations prévu à Oman dimanche avec Téhéran. Londres et Paris appellent à la retenue et à un retour à la diplomatie. Le Hamas affirme que les attaques israéliennes pourraient faire exploser toute la région, les qualifiant d'escalade dangereuse. La situation en Iran, toujours à suivre, minute par minute, sur notre fil en direct, en une de notre site internet RFI.fr.
Narendra Modi est auprès des blessés du crash d'Air India.
Crash survenu hier à proximité de l'aéroport d'Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat, dont le Premier ministre est originaire. Les secouristes continuent leur fouille sur le site du drame qui a fait au moins 265 morts. L'appareil s'est écrasé sur une résidence de médecins. 24 personnes au sol sont décédées. 241 des 242 passagers sont morts. Seul un Indo-Britannique de 38 ans a survécu. Une tragédie qui nous brise le cœur. Au-delà des mots, a dit Narendra Modi. Émotion ressentie jusqu'à New Delhi. Reportage de notre correspondante Léa Ojal.
Une tragédie qui marque les esprits, même à plus de 900 km du site de l'accident. À New Delhi, le crash de l'avion suscite l'effroi. Ravesh habite la capitale et suit en direct les dernières nouvelles sur son portable.
Cet accident nous attriste vraiment, d'autant plus qu'il s'agit d'un avion de la compagnie Air India et d'un appareil relativement récent, âgé de seulement 11 ans. Air India est une grande compagnie ici. Comme Air France pour la France, Air India est la compagnie nationale pour l'Inde.
Un avis qui n'est pas partagé par tous. Mira déplore un manque de sécurité de la compagnie indienne.
Air India n'est pas vraiment considérée comme une très bonne compagnie aérienne en Inde. Mais la sécurité, cela devrait être le minimum requis pour n'importe quel avion ou n'importe quelle compagnie. Donc si Air India n'est même pas capable de garantir cela, alors c'est vraiment triste pour tout le monde.
Le Premier ministre indien Narendra Modi est attendu dans la journée à Ahmedabad. Il devrait se rendre sur le site du crash, puis à l'hôpital local. Léa Ojal, New Delhi. RFI.
En Californie, la garde nationale peut finalement rester déployée dans les rues de Los Angeles.
La cour d'appel qui n'a pas tardé à réagir, car plus tôt dans la soirée, un juge fédéral avait déclaré que le déploiement de la garde nationale à Los Angeles face aux manifestants était illégal. Le ministère de la Justice américain avait donc immédiatement fait appel. Appel entendu, la décision du juge temporairement suspendue. Cela ne signifie pas que le tribunal donne définitivement raison à Donald Trump, mais en l'état, Donald Trump garde le commandement de la garde nationale.
Et c'est dans ce contexte que doit avoir lieu demain un défilé militaire géant à Washington.
Donald Trump qui compte fêter en grande pompe les 250 ans de l'armée américaine et par la même occasion son 79e anniversaire à lui. Ça fait beaucoup de bougies à souffler, un double anniversaire sur lequel on se penche ce matin avec Marine de la Moissonnière. Bonjour Marine.
Bonjour.
Ce défilé géant, c'est un vieux rêve qu'exauce Donald Trump.
Oui, c'est en assistant aux cérémonies du 14 juillet à Paris en 2017 que Donald Trump s'est dit qu'il aimerait bien, lui aussi, avoir son défilé. Le président américain qui n'a jamais fait son service militaire est fier d'être, comme il aime à le répéter, à la tête de l'armée la plus puissante du monde, une armée qu'il tente, comme beaucoup d'autres institutions, de réformer, voire de mettre au pas, quitte à la fragiliser.
Et Donald Trump qui a complètement redéfini le rôle de l'armée aux États-Unis.
Oui, il affirme que grâce à lui, l'armée s'est recentrée sur sa mission essentielle qui est d'anéantir les ennemis de l'Amérique. Fini les diversions comme les programmes de diversité, équité et inclusion qu'il a interdit. Le président américain a aussi exclu les personnes transgenres de l'armée.
Et c'est donc, Marine, surtout une refonte idéologique.
Oui, mais pas seulement. Donald Trump a imposé un changement de paradigme en déployant l'armée sur le sol américain, militarisation de la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale, envoi de troupes dans les rues de Los Angeles pour réprimer les manifestations. Pour Elizabeth Shepard, c'est la maître de conférence à l'université de Tours, Donald Trump ne respecte pas l'armée.
Il politise en fait la structure, ce qui va à l'encontre de la tradition américaine de neutralité des forces armées. L'armée n'est pas censée intervenir sur le sol américain. Les seules raisons que les militaires américains interviennent sur le sol américain, c'est s'il y a une insurrection, et c'est pas le cas. On peut le dire invasion ou tout ce que vous voulez, c'est pas une insurrection. Donc oui, c'est un grand changement, un peu étrange d'un point de vue juridique. Utiliser l'armée contre les citoyens, ça fait partie de tout ce grand plan idéologique. Et je pense que c'est très dangereux.
Et Marine, ce n'est pas une première. Lors de son premier mandat, après la mort de George Floyd, Donald Trump avait déjà essayé de confier des opérations de maintien de l'ordre à l'armée.
Oui, mais des généraux s'étaient opposés à lui. Cette fois-ci, il a fait le ménage et nommé des fidèles, à commencer par le chef du Pentagone, Pete Hegseth, ancien officier de la garde nationale et ex-animateur sur Fox News.
Aujourd'hui, non seulement il n'a pas des adultes dans la pièce, il n'a que des Benny Weevy, et il a un certain nombre d'idéologues. Je pense surtout à Stephen Miller, à Russell Voigt, qui instrumentalisent tout ça pour, en gros, détruire la démocratie américaine de l'intérieur.
Et justement, à ce sujet, comment réagit l'armée américaine ?
Eh bien, c'est difficile à dire, hein, car les militaires sont soumis à un droit de réserve. Une bonne partie de l'armée, surtout les jeunes, a voté Trump. Mais de se voir ainsi mis au service des combats idéologiques du président, ça en fait gronder certains. On entend de plus en plus de généraux à la retraite le critiquer. Bref, l'armée, à l'image de la société américaine, est polarisée.
Merci beaucoup, Marine de la Moissonnière. Vous signez ce matin notre dossier de la rédaction.
RFI.
RFI 9h11 à Nice, où s'achève la conférence des Nations Unies sur l'océan.
Qui se déroulait dans le sud de la France depuis lundi, avec une avancée majeure saluée par les ONG, à savoir une meilleure protection de la haute mer. Même si le sommet n'a pas débouché sur des financements de grande ampleur, une conférence mondiale qui comporte aussi un volet russe. Moscou a de longue date un espace maritime stratégique dans sa ligne de mire, l'océan Arctique, qui longe l'essentiel de sa côte nord. Et on retrouve à ce sujet à Moscou notre correspondante, Anissa El-Jabri. Anissa, cette route de l'Arctique est aussi de plus en plus une route commerciale qu'on appelle la route maritime du Nord.
Oui, l'océan Arctique est pris par les glaces entre octobre-novembre et avril-mai, mais la fenêtre de circulation sans l'utilisation de coûteux brise-glaces naviguant dans la nuit polaire, cette fenêtre s'allonge. Imaginez, le réchauffement climatique dans cet océan est 4 fois plus important que dans le reste du monde. Et ça, eh bien, Vladimir Poutine le voit depuis longtemps avant tout comme un atout. En mars 2017, le chef de l'État russe avait alors déclaré que la fonte des glaces facilitait non seulement la navigation dans cette région, mais aussi son exploitation à des fins économiques comme l'extraction des ressources naturelles. Alors l'année suivante, il annonçait cet objectif multiplié par 4 d'ici à 2025, le volume du fret transitant par la voie maritime du Nord pour atteindre 80 millions de tonnes par an, objectif déjà rempli selon l'agence d'État TASS, avec un peu moins de la moitié en simple marchandise.
Et cela dit, ça reste, Anissa, très en dessous des chiffres de la principale route commerciale du monde, celle du canal de Suez.
Voilà, cette route, dite aussi route du Sud, affichée en 2024, 524 millions de tonnes de marchandises transportées. Mais la concurrence sur le tronçon Europe-Asie va s'aiguiser, ne serait-ce que parce que la route par l'Arctique, eh bien, est plus courte. On va prendre le trajet Rotterdam-Shanghai, deux des principaux ports du monde. Eh bien, par la route du Nord, celle de l'Arctique, c'est 13 000 kilomètres. Par celle de Suez, un peu plus de 24 000. Et puis, il y a la guerre en Ukraine et les sanctions qui rendent cette route encore plus importante pour Moscou. Elle peut ainsi commercer directement avec l'Asie, exporter notamment une partie du pétrole qui, avant les sanctions, allait vers l'Europe. La Chine ne s'y est d'ailleurs pas trompée et elle a déjà offert son appui au projet d'infrastructure lancé par la Russie.
Merci Anissa El-Jabri, correspondante de RFI à Moscou.
Et puis dans l'actualité économique, la Chine est prête à supprimer les droits de douane sur les exportations africaines.
Quasiment tous les pays du continent seront exemptés. Jusqu'ici, seuls 33 pays les moins développés de l'Afrique bénéficiaient de cette mesure. Ils sont désormais 53 pays détaxés. Une seule exception sur le continent, Julien. L'Eswatini, l'ancien Swaziland, qui reconnaît encore Taïwan et avec qui Pékin n'entretient plus de relations diplomatiques. RFI Pékin, Claire Broderst.
Le contexte n'est pas anodin. Cette décision chinoise intervient alors que les États-Unis viennent de leur côté d'imposer jusqu'à 50% de taxes sur certains produits africains, ravivant les tensions commerciales avec le continent. Objectif numéro 1, stimuler les exportations africaines. Les grandes économies industrielles du continent, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte ou encore le Maroc, pourraient en tirer des bénéfices immédiats en accédant plus facilement au marché chinois. Mais Pékin veut aussi corriger un déséquilibre structurel. La Chine affiche aujourd'hui un excédent commercial de 62 milliards de dollars avec l'Afrique. En facilitant l'entrée de produits africains, elle espère rééquilibrer la balance tout en répondant aux attentes de ses partenaires. Les pays les moins avancés, comme la Tanzanie ou le Mali, ne sont pas oubliés. La Chine promet un accompagnement technique et commercial, formation, marketing, soutien logistique, pour éviter qu'ils ne soient écartés. Ce geste s'inscrit aussi dans une ambition géopolitique plus large, renforcer la solidarité Sud-Sud et construire une, je cite, « communauté de destin Chine-Afrique », comme l'a souligné Xi Jinping. Un nouveau pacte économique est en préparation. Il devrait s'accompagner de mesures concrètes pour faciliter les échanges commerciaux et humains. Claire Broderst, Pékin, RFI.
Pékin, oui, il est bientôt 15h15, 9h15, ici à Paris, l'heure de retrouver Julien Coquelroem.
Merci à Martin Guez et tout de suite la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour de la presse internationale et à la une, bien sûr, l'attaque d'Israël contre l'Iran.
Une attaque qui fait la une d'une grande partie de la presse internationale, à commencer par la presse israélienne. Après des années de préparation, titre le Times of Israel, Israël lance une offensive majeure contre l'Iran et son programme nucléaire. Des dizaines d'avions israéliens ont frappé des cibles à travers l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, y compris des sites nucléaires, explique de son côté Haaretz, selon lequel des sirènes ont retenti partout en Israël par crainte de représailles. Représailles qui ont d'ores et déjà commencé car selon le Times of Israel, l'Iran a lancé plus de 100 drones vers l'État hébreu au cours de ces dernières heures. L'agence de presse iranienne IRNA fait d'ailleurs savoir ce matin qu'un plan est en cours d'élaboration pour une réponse ferme aux attaques récentes du régime sioniste. IRNA cite également le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, selon lequel Israël doit s'attendre à une punition sévère. L'ayatollah Khamenei qui reconnaît par ailleurs que des commandants et des scientifiques ont été tués dans l'attaque israélienne.
Et la presse américaine donne des précisions sur l'identité des responsables iraniens tués dans cette attaque.
Le New York Times estime qu'Israël a anéanti la chaîne de commandement militaire iranienne. Le Washington Post annonce que le chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, a été tué. Le Wall Street Journal publie de son côté une vidéo de Téhéran dans la nuit qui illumine des explosions et cite un porte-parole israélien selon lequel Israël a envoyé plus de 200 avions de combat en Iran et a largué plus de 330 types de munitions. Le Wall Street Journal rappelle également le contexte de cette attaque qui intervient quelques jours avant que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff ne rencontre ses homologues iraniens pour un sixième cycle de négociations sur le nucléaire. Les États-Unis qui ont tenu à faire savoir via le secrétaire d'État Marco Rubio qu'ils n'étaient pas impliqués dans les frappes iraniennes mettant en garde l'Iran contre une attaque des forces américaines. Affirmation qui n'aura pas convaincu l'Iran, selon l'agence de presse IRNA. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les attaques israéliennes n'auraient pu avoir lieu sans la coordination et l'autorisation des États-Unis. La promesse de Donald Trump de faire la paix est fortement mise à mal par les frappes israéliennes contre l'Iran, constate de son côté le Japan Times, qui parle même d'un affront et cite un ancien conseiller de Barack Obama selon lequel la diplomatie trumpienne est l'une des premières victimes de ces attaques.
En Europe, à présent, l'heure est également aux premières constatations.
En Espagne, El País publie la photo d'un pompier casque blanc sur la tête au pied d'un immeuble dont certains étages sont éventrés. Autre photo publiée cette fois par Die Welt, celle d'un petit groupe d'habitants constatant les dégâts près d'un immeuble effondré. Selon le quotidien allemand, Israël aurait informé les États-Unis qu'il considérait ces attaques comme indispensables à sa légitime défense. En Belgique, Le Soir rappelle que l'amère contention entre Israël et l'Iran ne date pas d'hier. Après plusieurs périodes de calme, voire d'entente, les Israéliens ont estimé que la menace n'était pas qu'un leurre depuis que Téhéran a annoncé en 1998, avoir testé pour la première fois un missile capable d'atteindre Israël. Enfin, en France, Le Parisien rappelle que l'opération israélienne n'est pas terminée et qu'elle durera aussi longtemps que nécessaire, selon les propos tenus par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Libération, de son côté, estime que cette attaque massive et inédite rapproche un peu plus le Moyen-Orient d'un nouvel embrasement.
Merci Catherine Potet. Et on continue d'évoquer et de décrypter cette nuit de frappes israéliennes d'une ampleur inédite sur l'Iran. Un nouvel invité pour en parler. Bonjour Jonathan Piron.
Bonjour.
Historien et spécialiste du Moyen-Orient, merci d'être avec nous. Plusieurs centaines de cibles visées, plusieurs sites nucléaires et militaires touchés, plusieurs scientifiques de premier plan du programme nucléaire tués et la mort du chef des gardiens de la révolution Hossein Salami et du chef d'état-major de l'armée iranienne. À quel point le régime iranien et son programme nucléaire sont-ils affaiblis ce matin ?
Déjà, on est face à une attaque d'une ampleur inédite. On avait vu par le passé des opérations réalisées par Israël contre l'Iran. Il y avait notamment eu, il y a quelques années, l'assassinat de l'ingénieur nucléaire iranien Farizadeh. On se souvient aussi de l'attaque contre le leader du Hamas, Haniyeh, tué dans une résidence à Téhéran. Ici, on est dans un événement qui est encore beaucoup plus important parce que ce sont des frappes à la fois contre des infrastructures nucléaires, mais aussi contre des personnalités de premier plan. Maintenant, est-ce que le régime iranien est décapité, un peu comme les frappes israéliennes contre le Hezbollah avaient amené en effet le Hezbollah dans une position de faiblesse? Non. Ce sont en effet des leaders importants qui disparaissent, mais ils commencent déjà à être remplacés. On a d'ailleurs des noms qui circulent, comme celui du chef d'état-major ad intérim. Et on sait aussi que le programme nucléaire iranien est disséminé sur l'ensemble du pays. Certains sites, notamment à Ispahan ou à Fordose, n'ont pas été touchés. Et aussi, il y a l'acquisition humaine, scientifique, qui est présente, qui va continuer en fait à être aussi enseignée. Donc, le programme iranien sur le nucléaire est peut-être ralenti de quelques semaines, de quelques mois, mais il n'est certainement pas arrêté.
Israël justifie ses frappes ce matin en disant que l'Iran approchait d'un point de non-retour vers la bombe atomique. Ça vous paraît plausible ?
Mais c'est une rhétorique habituelle en fait du Premier ministre Benjamin Netanyahou depuis 1996. Déjà à l'époque, il annonçait que l'Iran aurait la capacité d'acquérir la bombe d'ici 2 ou 3 mois. Et on sait en fait à travers toute une série d'études et notamment aussi d'informations qui venaient des services de renseignement américains il y a quelques semaines que même si l'Iran aujourd'hui a la capacité technique d'acquérir la bombe, la volonté politique n'avait pas été encore franchie. Et donc, l'Iran était toujours au stade d'un état dit du seuil nucléaire. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'action et la séquence de cette nuit, en plus Israël annonce qu'elle n'est pas encore terminée, ne va pas finalement entraîner le régime iranien à se dire que face à cette situation où tout est perdu, eh bien une des dernières possibilités qui reste au régime pour assurer sa survie, c'est finalement maintenant de se lancer dans l'acquisition de l'arme nucléaire, que la décision politique soit franchie.
Et c'est d'ailleurs ce que dit l'Iran ce matin, puisqu'il affirme que ses frappes justifient sa volonté d'enrichir de l'uranium. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, affirme qu'Israël sera sévèrement puni. Téhéran dit avoir le droit légitime de répondre à cette attaque. Des drones ont été lancés vers Israël et l'armée israélienne dit qu'elle n'aura aucune limite. À quoi pourrait ressembler la riposte iranienne et quelles sont ses capacités, les capacités du pays qui a été affaibli à riposter aujourd'hui?
Mais la capacité de réponse du régime iranien est assez faible puisqu'on a vu que notamment toute une série d'alliés de la région, le Hamas, le Hezbollah, certaines milices en Irak aussi ont été affaiblies par toute une série d'opérations israéliennes. Et donc, sa capacité en fait de jouer justement sur une tension vis-à-vis d'autres acteurs aujourd'hui est très réduite. On a vu aussi par le passé que l'Iran a tenté des opérations de frappe directe contre Israël. On voit d'ailleurs que des drones ont été lancés, mais ces éléments, finalement, ne permettront pas de renverser la manœuvre, d'autant plus qu'il est certain que si jamais une opération de grande envergure est lancée par le régime iranien contre Israël, les États-Unis, en fait, vont se ranger derrière Israël. Et en cas d'attaque frontale, aussi bien contre Israël que contre les États-Unis, le régime iranien sait qu'il est perdant. Et donc, il faut trouver, en fait, des alternatives pour les régimes iraniens ailleurs. Et c'est là, en fait, que vraiment, la décision politique de se lancer dans l'acquisition de l'arme nucléaire pourrait être désormais franchie, mais avec énormément de risques pour la région, parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où le régime de non-prolifération s'effondre et où des États comme l'Arabie Saoudite, mais aussi peut-être l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, se décideront eux aussi à se lancer dans un programme militaire nucléaire.
Ça nous amène, vous avez commencé à en parler aux États-Unis. On sait que Donald Trump a été prévenu, mais qu'il a plutôt cherché à dissuader Benjamin Netanyahou de frapper l'Iran depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que ça dit des relations entre les deux hommes que le Premier ministre israélien ait décidé de ne pas l'écouter ?
On voyait déjà ces dernières semaines qu'il y avait des tensions un peu larvées qui existaient entre Trump et Netanyahou, notamment dans la visite de Trump dans la région où il avait snobé en fait Israël. On a peut-être en fait ici l'impression que le gouvernement israélien souhaite en fait mettre les États-Unis devant le fait accompli. Et il souhaite aussi peut-être profiter d'une situation dans laquelle il sait que les États-Unis ne vont plus se retourner contre lui, comme notamment on pouvait le voir durant l'administration Biden. Et donc, l'Israël ici cherche justement peut-être à remodeler encore beaucoup plus loin la région, comme il a déjà fait en fait depuis toute une série d'opérations, notamment contre le Liban, en se disant que maintenant il a toutes les cartes en main, qu'il a l'avantage et qu'il peut justement aller de plus en plus loin parce qu'il n'y aura pas de mesure de rétorsion de son principal allié.
Et les États-Unis qui appellent à ne pas frapper leurs intérêts ce matin, un nouveau round de discussion sur le nucléaire a été prévu ce week-end entre Washington et Téhéran. Les Américains sont dans une position particulièrement délicate.
Oui, mais le prochain round de négociation n'aura certainement pas lieu. Il serait quand même très étonnant que le régime iranien accepte de se rendre à la table des négociations, d'autant plus que le précédent round avait été compliqué, qu'on sentait aussi que les négociations s'enlisaient, même s'il y avait toujours la volonté de négocier. Maintenant, on est dans une nouvelle séquence où le régime iranien va se durcir Il faudra voir aussi les personnalités qui vont émerger, comment aussi le cercle ultra-conservateur et ultra-nationaliste va se resserrer autour de Khamenei. Et donc, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que toute possibilité d'un accord sur le nucléaire est désormais en fait éteinte à court terme.
Merci.
D'autant plus qu'il y a aussi des sanctions de l'ONU qui pourraient être réactivées d'ici quelques semaines contre l'Iran.
Merci Jonathan Piron, historien et spécialiste du Moyen-Orient. La situation entre l'Iran et Israël qu'on continue de suivre en direct sur RFI.fr.
RFI Matin.
Et l'autre info aujourd'hui, c'est cette décision d'un juge aux États-Unis d'interdire le déploiement de la garde nationale à Los Angeles, immédiatement suspendue par une cour d'appel un peu plus tard. Mais ça fait revenir une fois de plus dans l'actualité ces 4000 militaires réservistes envoyés dans la deuxième ville du pays par Donald Trump face aux heurts violents en marge des manifestations contre les expulsions de migrants par la police de l'immigration. Une actualité qui fait la une depuis une semaine et qui génère aussi forcément beaucoup de désinformation. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Dans les dessous de l'Infox, on parle de la confusion et des fausses infos qui entourent la situation à Los Angeles. Et parfois, ce sont les intelligences artificielles, les agents conversationnels comme ChatGPT ou Grok qui viennent semer le trouble.
Oui, deux photos ont retenu notre attention. Elles ont provoqué une polémique sur les réseaux sociaux. Des images montrant des soldats américains allongés sur le sol, en train de dormir les uns contre les autres, dans ce qui semble être un poste de sécurité ou le sous-sol d'un bâtiment. Ces photos ont été vues des centaines de milliers de fois, rien que sur le réseau X, et elles ont été partagées par le compte du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui, comme vous le savez, s'est opposé à Donald Trump à propos du déploiement de l'armée américaine dans les rues de Los Angeles.
Et c'est un compte très suivi.
Oui, il a plus de 2 200 000 followers rien que sur X. Dans son commentaire, il dénonce les conditions déplorables dans lesquelles les soldats seraient logés. Et il s'adresse directement à Donald Trump. Il écrit, je cite, « Vous avez envoyé des troupes ici, sans carburant, sans nourriture, sans endroit pour dormir. » S'il y en a un qui manque de respect à notre armée, c'est bien vous.
Alors ces images sont-elles réelles ?
Alors cette question, beaucoup d'utilisateurs d'Internet se la sont posée et ils s'en sont remis à l'avis de Grok, l'IA d'Elon Musk. Et ils ont interrogé aussi ChatGPT, par exemple. Juste après le partage de ces images, ces agents conversationnels ont affirmé que ces clichés semblaient montrer le retrait des soldats américains d'Afghanistan à l'aéroport de Kaboul durant l'été 2021.
Et Olivier, certains ont donc pensé que le gouverneur avait menti.
Oui, mais après vérification, c'est l'IA qui s'est trompée. Ces images sont bien réelles. Elles ont été prises à Los Angeles et publiées par un journal sérieux, le San Francisco Chronicle, dans son édition du 9 juin. La rédaction assure qu'elle a obtenu ces deux clichés en exclusivité et qu'ils montrent des soldats en train de se reposer dans différents immeubles fédéraux qu'ils sont chargés de protéger. Une recherche par image inversée permet d'établir que ces photos n'ont jamais été mises en ligne avant le 9 juin dernier, donc elles ne peuvent pas avoir été publiées il y a 4 ans lors du retrait d'Afghanistan. Donc attention, Grok ou ChatGPT ne sont pas des outils de fact-checking.
Pourtant, les vrais exemples de désinformation ne manquent pas à l'occasion de cette crise.
Avec des images générées par IA, comme celle de Bob, ce soldat américain censé avoir été déployé pour protéger Los Angeles. Il se filme dans la ville en mode portrait et répand de fausses informations. Ces images ont fait le tour des plateformes, mais il s'agit d'un personnage entièrement créé par des outils d'intelligence artificielle. À bien observer la vidéo, on peut noter d'ailleurs certaines incohérences, comme le grade du soldat qui ne correspond à rien de connu, les couleurs des feux de circulation à l'arrière-plan, ou encore les lettres LAPC sur une voiture de police, alors que c'est LAPD, Los Angeles Police Department, qui est inscrit en lettres noires sur fond blanc sur les véhicules de police de la ville.
Olivier Four pour les dessous de l'Infox, merci beaucoup. Et l'émission Les Dessous de l'Infox à retrouver ce soir à 17h30, temps universel. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans tout juste une minute. A tout de suite.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture ? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédiger une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.
Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en tournée en France. La reine du dancehall Made in Guinée vous attend pour une série de concerts. Le 20 juin à Marseille, le 26 juin à Paris au New Morning, le 28 au Festival Nuit Métis de Miramas. Plus d'infos sur le site rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.